Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La révolution islamique de 1979 n'a pas seulement changé le paradigme politique en Iran, elle a aussi, c'est évident, marqué un profond bouleversement dans les activités sociales et artistiques du pays. En matière d'urbanisme, la révolution s'est accompagnée d'un exode des campagnes et son corollaire, une forte urbanisation et des modes de vie d'urbains déracinés. Mais là encore, les grands projets venus d'en haut se sont souvent heurtés à des choix locaux autonomes et innovants. Téhéran en est un bon exemple, comme nous allons le voir avec l'urbaniste Mina Saidi Charouz. 40 ans d'urbanisme à Téhéran, c'est le thème de ce nouveau numéro d'Orient Hebdo, réalisé par Mathias Golshani, que vous pouvez podcaster sur notre appli Pure Radio.
تو تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود اینجا همه گرگه میخوا باشی مثل بره بزا چشو گوش تو من باکنم یه زرده اینجا تهرانه لعنتی شوخی نیستش.
Mina Saidi Charouz est enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Elle a travaillé en particulier sur la transformation urbaine et la société civile des quartiers populaires en République islamique et réalisé en 2015 un documentaire, l'histoire du quartier Cyrus à Téhéran. Bonjour Mina Saidi Charouz.
Bonjour Éric Bataillon.
En 40 ans, la population de Téhéran a été multipliée par 5. Comment s'est faite cette métropolisation ?
Oui, il faut dire que un des changements les plus spectaculaires qui s'est produit à Téhéran, c'est ce changement d'échelle depuis ces 40 ans. C'est-à-dire que Cet processus d'expansion de la ville qui avait démarré déjà depuis les années 70 a eu une explosion depuis la période post-révolutionnaire. J'appelle ça une métropolisation par le bas, c'est-à-dire fait par les personnes qui sont venues dans une situation d'urgence construire des quartiers entiers autour de la ville de Téhéran. Et ça a contribué à agrandir l'échelle de la métropole. Et ce qui est intéressant, c'est que ces quartiers sont devenus aujourd'hui des vraies villes, des villes de banlieue, qui ont été plus ou moins régularisées, mais qui ont contribué à ce que Téhéran devienne ce mégapole qui est aujourd'hui. Et cette métropolisation par le bas est vraiment originale, parce que, au contraire de beaucoup de métropoles, ça a été construit par les pauvres, c'est-à-dire avec tout l'élan de les déshérités de la ville, qui sont ceux qui étaient des locataires en mal de logement sont allés dans les périphéries, et aussi tous les sinistrés de la guerre, les personnes qui venaient des différentes régions sont venues s'installer, et ils ont construit petit à petit des unités de ville. Et avec des espaces publics, des équipements. Et à mon avis, enfin, c'est ce que j'ai développé avec un travail avec Mohsen Habibi dans un article dans la revue d'urbanisme, c'est à travers cette urgence de l'habitat que peu à peu, surtout la jeunesse de ces quartiers ont commencé à revendiquer des droits des citoyens et ils l'ont obtenu avec l'aide des intermédiaires qui étaient les conseils de sages, des quartiers, etc., que j'ai développé dans mes travaux.
Cette nouvelle pression urbaine sur Téhéran à partir des années, fin des années 70, elle a accompagné la révolution islamique ou c'est la révolution islamique qui a provoqué ce mouvement vers Téhéran populaire ?
Effectivement, il y a les deux puisque ces personnes qui sont venues s'installer dans les portes de Téhéran sont des personnes qui ont été chassées par des régions sinistrées par la guerre. Enfin, il faut dire ça, la révolution, il y a eu l'habitat post-révolutionnaire, c'est-à-dire tout de suite après la révolution, il y a des personnes qui sont allées prendre des terrains, ce qu'on appelle l'habitat spontané, et construire leur maison sans l'autorisation de personne. Et il y a eu aussi ces sinistrés de guerre ou des personnes qui ont fui les problèmes de différentes régions, sont venues s'installer également dans ces zones-là, et mais aussi à l'intérieur de Téhéran, dans des poches de quartiers populaires.
Vous l'avez dit, on a assisté donc à cette urgence de l'habitat dans les années 80 notamment et ensuite. Mais à cette urgence de l'habitat, vous dites que cette urgence a laissé place à un désir de citoyenneté. Pourquoi et comment ?
À travers les espaces publics, à travers Téhéran était quand même une ville qui a subi une modernisation très accélérée dans les années 60-70. Mais tout était dessiné, planifié par les experts, par les autorités. Il y avait un plan directeur. Mais ce qui s'est passé après la Révolution, ça a tout renversé. C'est-à-dire, d'abord, ce plan n'a pas été respecté. Et les personnes se sont installées, ils ont commencé, et c'est à travers la jeunesse qui a demandé, qui a commencé à formuler une revendication d'espace public, des espaces à eux. Les personnes âgées, les femmes ont commencé à s'exprimer, demander aux autorités de améliorer leur cadre de vie. Et peu à peu, ça a donné une légitimité à leurs paroles, à leurs demandes.
Et est-ce que les conseils de quartier, je crois qu'il y en a 350 ou 360
357
à Téhéran, est-ce que cela, ça a correspondu justement à ce désir de citoyenneté formulé par les populations, notamment populaires?
Bon, c'est-à-dire, comme ces zones ont été habitées par des personnes que, bon, nous on appelle ça les mi-ruraux, mi-urbains, puisqu'ils avaient encore leur organisation sociale rurale, qui était centré sur des sages, sur des personnes qui des chefs de village, etc. Et ça donnait quelque chose à une structure nouvelle qui était ces intermédiaires, on appelait aussi les comités des sages dans les quartiers, mais qui allaient dans les fins des années 90 ont été légitimés et un dispositif a été créé par l'État sous le nom des conseils de quartier, qui s'appuie sur ces traditions anciennes, mais qui en même temps a des réglementations tout à fait modernes, puisque ces personnes sont élues dans les quartiers, ce qui est vraiment rare. Hein. Dans beaucoup de pays, les conseils de quartier sont désignés, même en France. Mais en Iran, ils sont élus, donc assez représentatifs de la population locale. Et ils ont un rôle d'intermédiaire entre la population et les autorités.
Est-ce que justement les autorités s'en servent de ces conseils de quartier pour avoir je ne dirais pas une mainmise, mais en tout cas une vue d'ensemble sur ces quartiers?
Oui, alors c'est souvent le débat, puisque les conseils de quartier, normalement, ils vont vers les autorités pour parler des besoins des habitants. Et souvent, les autorités leur demandent aussi de faire passer quelques messages. Donc, il y a toujours cette négociation entre, disons, une sorte de liberté d'expression et une sorte de contrôle de l'État sur les quartiers. Mais on peut vraiment pas dire que c'est quelque chose d'acquis. Ça, c'est en négociation tous les jours, tout le temps. Moi, j'ai assisté à des réunions où, des fois, c'est très tendu. Et parfois, c'est beaucoup plus consensuel et... on peut imaginer que ça peut aboutir à un certain clientélisme et la mainmise de l'État. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces dispositifs sont très vivants et aujourd'hui, ils sont en train de les remettre en question. Et moi, je trouve que c'est très dommage parce que c'est quand même le nœud de cette revendication habitant et la parole qui est entendue par le haut.
Revendication citoyenne. Oui. Sur le plan de l'urbanisme, les promeneurs constatent à Téhéran qu'il y a beaucoup d'espaces verts dans la ville. Est-ce que c'est une volonté politique?
Oui, l'espace vert est un enjeu important. Ça faisait partie avant la révolution de la modernisation de la ville, hein, le paysage urbain, les espaces verts. Mais après la Révolution, ces espaces verts ont été beaucoup plus investis par les gens. Même titre que l'habitat, il y a eu des appropriations spontanées. On sait qu'en Iran, la pratique du pique-nique est très ancienne et très importante et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une manière d'utiliser ces espaces verts en famille, rester pendant une journée entière, les week-ends ou les jours de fête. Et plusieurs jardins, des grands jardins privés, ont été réquisitionnés pour pouvoir les transformer en parcs, surtout dans le sud de la ville. Mais dans le nord, malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit, puisque ces grands jardins sont, disons, récupérés par les promoteurs pour faire des grands tours, et on a de moins en moins d'espace, alors qu'avant, c'était l'inverse. Le nord, c'est le quartier riche et moderne, et le sud, c'est le quartier populaire, vernaculaire et plus modeste.
Alors justement, nous parlons d'urbanisme. Dans les années 2000, un nouveau schéma directeur a été adopté. Que prévoyait-il précisément et est-ce que cela a fonctionné?
Son élaboration était longue, mais l'originalité était que c'était fait par les agences locales avec un débat très fructueux au sein de ces différentes équipes qui essayaient de limiter cette extension de la ville, de pouvoir retrouver les vallées vertes qui existent à Téhéran, puisque c'est une ville au piémont de la montagne, et avoir une vision plus de développement durable. Bon, ben cependant, c'était un peu peut-être trop tard, puisque la ville était déjà étalée, surtout du côté du sud et sud-ouest, par ces voies autour de la route, et ensuite par des villes nouvelles complètement autoproduites.
حقیقه روشن خودت رو به اون را نزن روشن ترش میکنم بس بمون جا نزن خدا باشو من چند سالی با درد کنم خدا باشو باشو دیدش اونا راحت از بارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا باشو من یه آشقال با درد کنم نمکی با چرخش کناره یه بنزه کل و چرخش با هم کرایه یه بنزه من و تو اون بودیم از یه قطره حالا ببین فاصله ما چقدره دلیل چرخش زمین نیست جاذبه پوله که زمینو میچرخونه جالبه این روزا اول پوله بعد خدا.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI, nous sommes en compagnie de Mina Saidi Charouz, enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette, pour parler de l'évolution de l'urbanisme pendant les 40 dernières années et la révolution islamique en Iran. Il y a le risque sismique, qui est un risque important qu'on connaît pour Téhéran. La ville est d'ailleurs régulièrement secouée par des tremblements de terre en raison de la grande faille qui est située juste sous la chaîne de l'Elbourz. Il y a eu un projet urbain, Navab, je crois, qui a été critiqué. Pourquoi ?
Alors, le projet Navab, c'était une tentative de la, enfin, à mon avis, une tentative de la reconquête des espaces urbains par les autorités. C'était dans les années 90, après toutes ces vagues d'habitat spontané et cette évolution, je peux dire, entre guillemets, non contrôlée de la ville. C'était une opération énorme, une autoroute qui a été tracée en plein zone habitée et qui aujourd'hui est très critiquée en Iran, et on dit toujours plus jamais ça, puisque on a su tous les dégâts. C'était une démarche très volontariste, mais qui finalement a créé des coupures urbaines énormes, et ça a peut-être facilité la circulation de la voiture, mais pour la ville c'est sûrement une sorte de blessure qu'on met longtemps à remédier.
Oui, il y avait aussi une volonté de récupérer notamment toute la vieille ville pour peut-être construire des buildings à la place, c'est cela ?
Alors oui, ils voulaient récupérer la vieille ville pour moderniser et de construire des logements de masse. C'était un échec, on peut dire, et cet échec a été une leçon pour les architectes urbanistes en Iran, qui ensuite, il y a eu une génération de projets qu'on appelle les projets participatifs et qui ont sollicité l'aide des habitants et leur contribution aussi financière que leur... Ils ont été concertés pour rénover ces tissus anciens.
Alors justement, vous notez que dans les banlieues populaires de Téhéran, ces banlieues sont très vivantes, avec un foisonnement de population. Quelle est la place des femmes dans cet espace foisonnant ?
Bah, ce que on peut constater, c'est que de toute façon, c'est le grand changement dans le paysage urbain à Téhéran, c'est la présence des femmes dans la ville. Puisque cette présence massive, avec des déplacements, selon les chiffres, sur 11 millions de déplacements par jour, il y a 4 millions de déplacements faits par les femmes. Et ça, dans une société où il y a encore 60 ans, les femmes étaient censées rester à l'intérieur des maisons et l'espace public était réservé aux hommes. Aujourd'hui, c'est un vrai, c'est révolutionnaire, cette pratique de la ville par les femmes. Et donc, la prise en compte de cette présence, peut-être obligatoire, mais par donc les gestionnaires des transports en commun, de la ville... et qui ont mis des mesures importantes pour satisfaire le besoin des femmes dans la ville, notamment le métro, les trottoirs, enfin tous ces éléments qui ont été revendiqués par les femmes.
Justement, il y a 5 lignes de métro, je crois, à Téhéran. Oui. Les femmes peuvent prendre le métro comme ici à Paris ?
Oui, les femmes peuvent prendre le métro, bien sûr. Et
elles ont des places réservées ou bien tout est mélangé?
Alors, ça a été, comme cette demande a été très forte, il y a eu des places réservées. Au départ, non, tout au début. Après, on a eu un wagon, deux. Et aujourd'hui, il y a 3 wagons réservés aux femmes sur les 7 wagons. Et elles peuvent aussi aller dans les autres wagons, c'est-à-dire on a des wagons mixtes et des wagons réservés aux femmes. Et ce qui est intéressant, c'est cette tension qui se crée dans les espaces entre... Il y a des demi-wagons de chaque côté du train qui sont réservés aux femmes, mais qu'au moment à certains moments de la journée, les hommes peuvent y aller. Bon, c'est des zones de friction que j'appelle et que j'étudie, puisque ça, dans ces zones-là, il y a une tension entre la place des femmes et aussi cette espèce de densité qu'il y a dans le métro et qui met un peu en question ces places réservées.
Et cette place de la femme dans l'espace public ne pose pas de problème aux autorités actuelles iraniennes ?
Écoutez, non, moi, ce que je constate, c'est les femmes, elles ont été vues. Je pense qu'il y a une visibilité, ce qu'on peut dire visibilité dans une sorte de contrôle général des femmes et de leurs revendications. Mais je pense qu'il y a toujours cette tendance de vouloir mettre la main sur cette présence, de la contrôler et presque protectionniste, protéger les femmes dans l'espace public jusqu'à un point où on les sépare pour qu'elles soient protégées. Mais ceci crée des débats, évidemment, à l'intérieur du pays. Il y a énormément d'émissions comme ici ou des journaux qui en parlent. Est-ce que ces espaces non mixtes vont aider à l'évolution à amener les femmes vers une vraie citoyenneté, ou alors on les garde quand même dans un espace privé, calfeutré et protégé?
Et la tendance est plutôt à la femme et sa place dans l'espace public aujourd'hui en Iran.
Oui, la femme s'affirme dans l'espace public, puisque cette présence, parfois, elle est même volontaire. Les femmes sortent presque par principe, et politiquement, elles sortent, elles se déplacent, elles sont mobiles.
Et parfois, elles revendiquent, notamment avec le foulard blanc qu'elles tendent sur leur bâton.
Oui, alors il y a toutes sortes d'expressions. L'important, c'est que, je pense aujourd'hui, les femmes ont libéré une parole en Iran. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le nier, puisque les hommes commencent à les entendre, à tenir compte de ça. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire, puisque avant, il y a 60 ans, on n'avait pas cette force massive. Il y avait des femmes qui s'exprimaient, il y avait beaucoup de femmes intellectuelles, politiques, mais elles étaient en petit nombre par rapport à aujourd'hui.
Un mot de la situation actuelle de l'Iran dans son environnement. Vous dites que l'accès à la mondialisation passe par la Turquie. Que voulez-vous dire par là?
Je mets deux pensées face à face. C'est cette idée que la révolution a créé une forme de la prise en main de la ville par la société civile. Et cette tendance des professionnels, des experts, à avoir une démarche, disons, du haut vers le bas, de proposer des projets qui ne sollicitent plus la participation des habitants. Et ce sont des grands projets, des méga projets qui sont construits. Et à mon avis, c'est ceux-là qui, d'une part, sont très nuisibles à l'environnement, puisque c'est des grands projets qui s'installent partout dans la campagne, sur les terrains agricoles. Et d'autre part, ça véhicule des modèles, comme le modèle turc, qui malheureusement construit des logements massifs tout autour d'Istanbul et que ça va jusqu'à la perte de vue. Et aujourd'hui, Téhéran et Istanbul sont très proches dans leur politique. Téhéran essaye de rentrer dans la mondialisation à travers la Turquie et donc suivre ces modèles qui sont ces modèles de construction de masse, des grands projets où de plus en plus le rôle des habitants est limité.
Merci Mina Saïdi Charouz, vous êtes enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette.
Merci Eric Bataillon.
Demain, nous parlerons théâtre avec Omar Fertat, auteur d'une somme ambitieuse sur le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger, un livre issu de sa thèse, publié aux presses universitaires de Bordeaux. À demain donc, tout de suite, le journal.